Europe 1, il est 7h40. Vous avez sans doute eu des envies d'ailleurs ces derniers mois. Logement trop petit, ville confinée, commerce, bar, restaurant fermé. Mon invité a profité du confinement pour réfléchir à nos habitats, de la chambre où vous télétravaillez à l'agglomération urbaine. En direct avec nous, le géographe Michel Lussault, auteur de chroniques de Géoviral aux éditions 205.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon, directeur de l'École urbaine de Lyon. On va parler de nos villes, de nos habitats pendant quelques minutes. Pour commencer, vous questionnez depuis le premier confinement le cadre urbain. Dans la ville, déjà, le virus se propage plus vite.
Oui, bien sûr. La pandémie est dotée d'une géographie qui est une géographie très particulière. Et cette géographie, c'est la géographie des grandes villes du monde. La pandémie naît dans une grande mégapole en Chine, puis elle se diffuse à partir de cette mégapole, en raison même de la connexion entre cette mégapole et toutes les autres mégapoles et métropoles mondiales. Donc, si l'on regarde bien ce qui se passe dans les premières semaines, eh bien, c'est la géographie urbaine du monde contemporain qui est dessinée par la diffusion du virus.
Et c'est le géographe que vous êtes qui a été interpellé par cette situation internationale. C'est ce que je parlais de chroniques de Géoviral, votre livre, c'est un recueil de chroniques que vous avez diffusé en ligne depuis chez vous pendant le confinement. Vous vous êtes mis à parler de géographie aux Français parce qu'on se rend compte avec cette problématique des villes que sous restriction sanitaire, comme on va peut-être en connaître de nouvelles ce soir, eh bien on perd l'avantage de la vie en ville.
Bien sûr, et deux choses m'ont frappé. D'abord, la vulnérabilité de nos villes, la fragilité de notre vie urbaine. Qui aurait pu penser en décembre 2019 que nous allions en quelques semaines nous retrouver tous à l'arrêt, voir les activités économiques que nous pensions les plus solides qui soient, eh bien finalement elles aussi être mises à l'arrêt, les aéroports fermés, les centres commerciaux fermés. Qui aurait pensé à cette vulnérabilité? Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que dans une ville, quand il n'y a plus de bars, de restaurants, de théâtre, de musée, d'espace pour se divertir, d'université ouverte, quand les écoles sont contraintes, quand nous sommes assignés à résidence, eh bien finalement la qualité de vie urbaine s'en ressent beaucoup. Et là aussi, ça nous fait mesurer en quelque sorte la fragilité de ce que j'appelle l'urbanité, c'est-à-dire la qualité de vie propre à une ville. Une ville, finalement, c'est un endroit dont on jouit parce que l'on est capable de rencontrer des autres et d'avoir de nombreuses activités à portée de main. Eh bien, tout ça a été, en quelques semaines, encore une fois, mis en question. Et c'est cela qui m'a fait réfléchir.
Alors, certains ont eu des envies de campagne. On parle souvent des néo-ruraux. Mais la réalité, quand on regarde les chiffres, c'est que la dynamique reste en faveur de la ville. Donc, ce que vous dites, Michel Lussault, c'est qu'il va falloir s'habituer et adapter notre cadre urbain à ce qu'on pourrait connaître dans un futur plus ou moins proche, de nouvelles pandémies, de nouvelles mesures restrictives de ce genre.
Oui, il est probable que de nouvelles pandémies nous concernent, ça tous les scientifiques le savent, notamment parce que nous avons tellement bouleversé les écosystèmes que l'on sait que ce que l'on appelle les zoonoses, vous savez, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire ces virus qui partent du monde animal et qui se transfèrent au monde humain, sont probablement appelés à être plus fréquentes. Et puis, deuxièmement, la pandémie nous révèle que, eh bien, organiser le télétravail, vivre assigné à résidence dans des logements trop petits, dans des villes mal conçues, en fait, pour la qualité de vie au quotidien, eh bien, c'est très difficile. Et nous mesurons sans doute à quel point, depuis une trentaine d'années, le développement urbain est plutôt subordonné à des impératifs strictement économiques. Et ça peut se comprendre, parce que les villes sont des plateformes économiques d'une incroyable puissance. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous en passer, d'ailleurs. Mais que la qualité de vie moyenne s'est plutôt dégradée. Par exemple, nous ne savons pas assez qu'en France, cinquième puissance mondiale, eh bien, la taille moyenne des logements construits a beaucoup diminué depuis 25 ans pour des raisons d'impératifs économiques, pour des raisons de rentabilité économique. Donc aujourd'hui, les 4 pièces sont moins grands que ceux des années 60-70. Et tout va bien lorsqu'on est capable de sortir, d'aller dehors, d'aller sur une terrasse, d'aller flâner à l'extérieur. Mais quand on est assigné à résidence, eh bien on s'aperçoit que le logement est trop petit et on s'aperçoit aussi que son quartier est souvent dénué de ce qui permet la vie confortable au quotidien. Eh bien c'est à partir de là aussi que je me suis dit qu'il fallait peut-être développer un nouvel urbanisme.
Alors je voudrais vous faire écouter une voix, je vais la traduire en direct, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Il dévoile, là-bas en Arabie Saoudite, un nouveau projet de ville.
Aujourd'hui,
je vous présente The Line, une ville qui peut accueillir 1 million d'habitants, 170 km de long, une ville qui préservera 95% des zones naturelles, avec zéro voiture, zéro route, zéro émission de CO2. Ce projet est une révolution civilisationnelle pour l'homme et place l'être humain au centre des priorités. Voilà ce que dit Mohamed Ben Salman, cette ville qu'il faut imaginer, donc en longueur, 170 km de long, avec tout à proximité, et sans voiture. C'est ainsi que vous voulez qu'on repense le quartier ?
Alors, je ne sais pas s'il faut aller vers ça. Il y a d'ailleurs un peu un paradoxe de voir que le prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui est un des pays qui a promu une économie fondée sur l'extraction du pétrole, donc de l'énergie fossile, et développé des villes qui sont d'ailleurs très peu environnementales et très peu écologiques, promeuvent une telle révolution, qui d'ailleurs renvoie à une vieille idée du début du XXe siècle, où un certain nombre d'urbanistes ont proposé ce qu'on appelait l'urbanisation linéaire. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est qu'on prend conscience que le modèle urbain que nous avons choisi depuis 30 ans n'est pas soutenable et qu'il nous expose, nous, à des faiblesses, à des fragilités et qu'il n'est pas confortable surtout. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Quand on fait des enquêtes dans le monde, on s'aperçoit que beaucoup de gens, sauf les plus riches, évidemment, qui eux ont les moyens en quelque sorte de rendre leur vie confortable, beaucoup de gens se plaignent de l'inconfort urbain. Eh bien, le nouveau confort urbain auquel j'appelle que nous réfléchissions, c'est un confort qui d'abord s'appuie sur l'idée qu'il faut redonner au logement de l'espace, de la qualité de logement, redonner au quartier aussi de la qualité. Et de ce point de vue-là, il y a également beaucoup d'idées qui sont travaillées, par exemple la ville du quart d'heure de Carlos Moreno, mais aussi aux États-Unis.
Vous arrêtez un instant, c'est quoi la ville du quart d'heure, simplement pour nos auditeurs?
Eh bien, la ville du quart d'heure, c'est une des idées qui circulent, si je puis dire aujourd'hui, qui consiste à affirmer que la ville la plus confortable, c'est celle où, en un quart d'heure à partir de chez soi, de préférence à pied, on peut trouver le maximum de services, de commerces, d'espaces de rencontres, de proximité. Et si l'on regarde bien dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, par exemple, en France, eh bien, on s'aperçoit que, évidemment, dans le 7e arrondissement de Paris, on peut trouver cette ville du quart d'heure. Mais dès que vous vous éloignez des zones les plus centrales et dès que vous allez en particulier dans les zones périurbaines, on s'aperçoit qu'on est souvent démuni de services, démuni d'espaces de rencontre, qu'on est très dépendant de l'automobile, qu'on est très dépendant finalement de grandes structures commerciales. Et même le prince d'Arabie Saoudite le dit dans sa ville linéaire de Line, finalement tout est à proximité. Eh bien je crois que le confinement nous remet devant cette nécessité de développer une ville de la proximité.
Merci Michel Lussault.
Merci à vous.
Alors je vais juste révéler une chose à nos auditeurs, simplement quand on a votre recueil de chroniques de Géoviral aux éditions 205 en main, on voit que les dessins sont signés de Lou Herrmann et j'ai pas trouvé de dessin dans le livre. C'est la couverture qui se déplie en fait et là on retrouve une carte qui résume vos chroniques. C'est une carte tout simplement de la géographie du virus parce que c'est aussi une question pour le géographe que vous êtes que cette pandémie que nous traversons. Merci beaucoup Michel Lussault.
Merci à vous.
D'avoir pris quelques minutes pour expliquer la ville de demain, les enjeux de cette ville de demain à nos auditeurs ce matin, chronique de Géoviral aux éditions 205. Michel Lussault, qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de l'École urbaine de Lyon, 7h48.